Radio Prague, les informations. Bonjour, les syndicats prévoient de nouvelles actions de force pour protester contre la politique du gouvernement. Crise gouvernementale, 8 députés des affaires publiques ne soutiendront pas la coalition lors du vote de confiance ce vendredi. Et puis enfin, le gouvernement a adopté le programme de convergence actualisé qui prévoit un déficit budgétaire à 3% du PIB en 2011. Les syndicats prévoient de nouvelles actions pour protester contre la politique du gouvernement. Des grèves ainsi que de nouvelles manifestations en faisant suite à celle de samedi dernier qui a rassemblé une centaine de milliers de personnes à Prague sont prévues. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le chef de la coalition des fédérations syndicales des transports. Selon lui, ces actions, qu'il a qualifiées de douloureuses pour le gouvernement, devraient être organisées d'ici la mi-mai. Des grèves dans les transports, tant à l'échelle régionale que nationale, sont notamment envisagées. Par ailleurs, la Confédération des unions syndicales de Bohême et de Moravie a fait savoir qu'elle ne participerait plus aux réunions avec les leaders des partis de la coalition gouvernementale tant que celle-ci ne suspendrait pas ses réformes. Le Premier ministre Petr Nečas a réagi à ces informations en déclarant que ces décisions exacerbaient la tension et que le gouvernement souhaitait continuer à négocier avec les syndicats. Politique toujours, 8 députés du parti Affaires publiques ne soutiendront pas le gouvernement lors du vote de confiance prévu vendredi, à la différence de 3 autres de leurs collègues et d'un 4e qui ne participera pas au vote. L'information a été communiquée ce mercredi par la présidente du groupe parlementaire des Affaires publiques. Selon cette dernière, aucune consigne n'avait été donnée. Les députés de l'ancien des 3 partis de la coalition ont donc pu se décider librement. La scission des Affaires publiques, désormais passée dans les rangs de l'opposition, est à l'origine de l'actuelle crise gouvernementale. L'issue du vote de confiance au gouvernement, désormais composé du Parti civique démocrate, de Top 09 et d'une nouvelle plateforme politique issue de la scission des affaires publiques, déterminera la tenue ou non d'élections législatives anticipées en juin prochain. Le gouvernement a adopté ce mercredi la version actualisée du programme de convergence, un document qui définit la stratégie budgétaire de l'État pour les prochaines années en vue de l'adoption de l'euro. Dans ce programme, le gouvernement s'engage à réduire le déficit public à 3% du PIB cette année et à le maintenir en dessous de cette limite à partir de 2013 et pour les années suivantes. Selon l'Office tchèque des statistiques, le montant du déficit du budget de l'État a atteint 3,09% du PIB en 2011 contre 4,83% en 2010. Rappelons que les critères de Maastricht stipulent un déficit budgétaire inférieur à 3%. Le document, à savoir le programme de convergence, doit être présenté à la Commission européenne avant la fin avril. Le vice-ministre de la Défense, Jiří Šedivý, occupera à partir de septembre prochain le poste d'ambassadeur tchèque auprès de l'OTAN. L'information, qui n'a pas encore été annoncée officiellement, a été toutefois publiée ce mercredi par le quotidien Lidové Noviny. Jiří Šedivý remplacera le représentant permanent de la République tchèque auprès de l'OTAN, Martin Povejšil, qui lui représentera désormais la République tchèque auprès de l'Union européenne. Ministre de la Défense entre septembre 2006 et janvier 2007, Jiří Šedivý est actuellement chargé de l'élaboration de la conception de l'armée tchèque pour les 10 prochaines années. On passe au sport et au football. Pour la 2e fois de sa carrière, Petr Čech participera à la finale de la Ligue des Champions. Comme lors du match aller qui s'était achevé sur une victoire de Chelsea 1-0, le gardien de but tchèque a grandement contribué à la qualification du club londonien lors de la demi-finale retour mardi soir à Barcelone, qui s'est achevé sur un score nul de 2-2. La finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs se tiendra à Munich le 19 mai prochain. Outre Petr Čech, seuls cinq autres joueurs tchèques sont parvenus à se qualifier pour la finale avec leurs clubs respectifs et seuls 3 d'entre eux avaient disputé le match et avaient remporté le trophée. Rappelons qu'en 2008, Petr Čech avait perdu en finale avec Chelsea contre Manchester United à l'issue de la séance des tirs au but. On termine avec un mot de météo après une journée de mercredi marquée par un temps variable. C'est un temps chaud et très ensoleillé qui règne sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des autos. Cette tendance au grand soleil devrait se maintenir au moins jusqu'à la fin de la semaine. Les températures sont en hausse et varient entre 19 et 23 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel est le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Magdalena Rosinkova pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme d'actualité de Radio Prague. Au sommaire aujourd'hui, les tensions ethniques entre la population rome et non-rome dans la ville de Břeclav en Moravie du Sud. Une manifestation anti-rome a récemment rassemblé 2000 personnes dans cette petite ville morave. Nous parlerons ensuite de la nouvelle mise en scène de La Petite Renarde Rusée de Leoš Janáček. Ce sera une production indépendante qui est actuellement préparée par Stéphane Grugler. La deuxième partie de notre émission sera consacrée au discours social de l'Église catholique dans la Première République tchécoslovaque. Pour en parler, nous avons invité au micro l'historien Jakub Štofánik. Avec la région de Chluknov dans le nord du pays, Břeclav, une petite ville morave de 25 000 habitants située tout près de la frontière slovaque et autrichienne, est désormais le théâtre de vives tensions ethniques entre Roms et non-Roms. À l'origine, un incident survenu à Břeclav à la mi-avril, quand trois agresseurs inconnus, dont un supposé être Rome, ont violemment attaqué un garçon de 15 ans. Pour soutenir la victime et sa famille, mais également afin de revendiquer plus de sécurité, 2000 habitants de la ville ont manifesté dimanche dernier au centre de Břeclav. Détail important, c'est le mouvement d'extrême droite Jeunesse ouvrière qui a appelé à la manifestation. Au-delà des faits, cette affaire de Břeclav est l'occasion de s'interroger sur la responsabilité et l'objectivité des médias tchèques. Nous ne voulons pas de tziganes, les tziganes au travail, nous sommes ici, où êtes-vous? Autant de slogans scandés par environ 500 jeunes radicaux venus de tous les coins du pays à Břeclav. Les messages sur les pancartes ont été tout aussi explicites. La mairie dort pendant que les tziganes tuent ou encore stop à la terreur tzigane. Ce rassemblement suivi par plusieurs centaines de policiers a surtout mobilisé les habitants de Břeclav. Si la majorité d'entre eux est venue exprimer leur soutien aux garçons agressés et à sa mère, certains manifestants n'ont pas pris leur distance par rapport au discours des extrémistes.
Non, cela ne me dérange pas que soit une manifestation organisée par les extrémistes. De toute façon, c'est la faute du gouvernement, qu'il envoie les ronds au travail. Ils rentreront fatigués et on sera tranquilles.
Le nombre de Roms qui résident à Břeclav est estimé à 500 et il n'existe pas de ghetto Rom. Alors que l'incident a été condamné par de nombreux Roms de Břeclav ainsi que par les associations Roms, le rassemblement de dimanche dernier a semé la panique au sein de la communauté Rom de la ville.
Si c'était les gens d'ici qui avaient attaqué le garçon, la police les aurait déjà trouvés. Non, c'était des gens venus d'ailleurs. Ils viennent de l'Allemagne pour trouver de la drogue ici.
Ce mercredi, les auteurs de l'attaque contre le jeune homme, grièvement blessé au niveau du foie et des reins, demeuraient inconnus. L'origine rome d'un des agresseurs n'a été évoquée que par le garçon et la police ne dispose, semble-t-il, d'aucun autre témoignage. Pourtant, plusieurs médias internet ont informé dans les premières heures après l'incident d'une attaque brutale de trois roms contre un garçon à Břeclav. La directrice du comité tchèque d'Helsinki, Markéta Kovaříková, fait partie de ceux qui reprochent médias tchèques d'attiser la haine raciale dans le pays. On l'écoute.
Ce n'est pas la première fois que les médias tchèques ont informé sans vérifier les faits et sans respecter la présomption d'innocence. Ce comportement est d'ailleurs de plus en plus courant. Récemment, la chaîne privée TV Nova a diffusé un reportage sur une attaque de Roms contre une fille dans la région de Liberec. Il s'est avéré ensuite que cette fille avait menti. Mais le reportage s'est appuyé sur ses propos. Le problème est que les journalistes n'ont aucune responsabilité. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent et peu importe si ce n'est pas vrai.
La semaine dernière déjà, l'incident de Břeclav a préoccupé les associations roms et les autorités municipales et régionales. Ces dernières demandent à l'État de renforcer la sécurité dans toute la région de Břeclav, privée par ailleurs d'environ 500 gendarmes suite aux mesures d'économie. Monika Šimunková, chargée gouvernementale des droits de l'homme, a également fait le déplacement à Břeclav en condamnant l'attaque et elle a tout de même mis en garde contre l'utilisation dans cette affaire du principe de culpabilité collective qui vise les Roms. Stéphane Grugler est metteur en scène et scénographe d'opéra qui a déjà réalisé de nombreuses productions lyriques dans plusieurs pays. Actuellement, il prépare une mise en scène de La petite renarde rusée de Leoš Janáček. Cette production indépendante permettra à Stéphane Grugler de réaliser une vision très originale de l'œuvre du compositeur morave et de faire fusionner l'opéra et les arts plastiques. Il se propose aussi de démocratiser l'art lyrique et d'abattre les barrières entre l'opéra et ses spectateurs. Il a présenté quelques aspects de ce projet ambitieux au micro de Václav Richter.
La petite renarde rusée est un opéra sur la rencontre entre le monde animal et le monde humain, et le monde des hommes. Est-ce que le personnage même de la petite renarde rusée est pour vous plutôt une femme ou plutôt un animal, une renarde? Est-ce que vous préférez plutôt avoir une renarde anthropomorphe?
C'est vrai, on est toujours un petit peu tiraillé entre les deux, de se dire voilà jusqu'à quel point l'humain devient animal ou jusqu'à quel point l'animal devient homme. Et je pense que c'est là où justement le génie de Janáček, qu'on n'est pas dans quelque chose de simplifié. Et il montre vraiment, je pense, avec toute cette complexité, cette confusion et ce lien et cette superposition des deux univers. Je pense tout d'abord que les deux univers pour le spectateur doivent être le plus clair que possible, mais en même temps j'aurais horreur de cacher mes interprètes sous des masques d'animaux, parce que je trouve que ça enlève aussi toute humanité ou toute émotion directe, et on n'est pas dans un livre de contes voilà, qu'on déplie, on n'est pas dans un Walt Disney où on joue à l'animal, on est justement quelque part où c'est beaucoup plus complexe, mais c'est là où ça devient intéressant, je pense, voilà, ces deux univers qui se mélangent.
Il me semble, d'après ce que vous avez dit de votre conception, que pour vous, l'opéra La Renarde Rusée est un spectacle où vous avez besoin des chanteurs, des interprètes qui sont en même temps comédiens et même un tout petit peu acrobates, si je comprends bien. Est-ce que c'était facile de trouver de tels interprètes?
La distribution n'est pas faite en entier. Hein. Il y a certaines personnes, voilà, on commence à se diriger vers plusieurs personnes. C'est très compliqué. Mais en même temps, j'ai déjà remarqué, même quand je travaille dans l'opéra, entre guillemets, traditionnel, en étant aussi scénographe, très souvent, j'ai imposé certaines difficultés aux chanteurs qui font que le chanteur, à un moment, il doit oublier d'être chanteur et il faut qu'il incarne, il faut qu'il utilise ses jambes pour pouvoir marcher. Évidemment, c'est souvent le problème. À partir du moment où vous devez descendre une pente, marcher quelque chose, enjamber quelque chose, obligatoirement, il y a des difficultés physiques qui s'imposent. Mais très souvent, quand ça se passe bien, évidemment, il y a peut-être aussi des contre-exemples, mais quand ça se passe bien, je pense aussi que cette contrainte, d'une certaine manière, oblige la personne d'être elle-même avec tout son corps, de la tête aux pieds, dans ce décor, dans cet univers particulier à ce moment-là. Et on n'a pas le temps de faire semblant quelque chose, mais on marche, on doit marcher et on utilise ses jambes. Et là, je pense que ça va être encore plus extrême de pouvoir grimper en haut, de pouvoir descendre. Ça impose d'une manière que ce soit réussi une longue période de travail, mais on envisage vraiment de répéter 8 semaines à disposition pour pouvoir travailler, ce qui est quand même assez énorme pour l'opéra. En même temps, je suis marié avec une chanteuse et je sais très bien aussi les difficultés qu'il y a de l'autre côté. Et c'est sûr qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est possible.
Est-ce que l'opéra est chanté en tchèque?
Absolument, absolument. C'est essentiel. Je pense qu'il y a certains compositeurs où le texte n'a pas autant d'importance, où là, de faire une traduction, ce n'est pas très grave. Mais il me semble, avec tout ce qu'on lit aussi sur cette œuvre-là, je pense, là, c'est vraiment un des compositeurs comme Benjamin Britten aussi, il me semble, c'est impossible de traduire. Et il y a une sonorité, tout le travail sur les différents accents qui me semble très, très important aussi. Évidemment, ça, malheureusement, je ne peux pas le juger moi-même, mais on s'est entouré avec plusieurs spécialistes de la langue tchèque, qui sont tchèques eux-mêmes aussi, qui vont justement nous conseiller. Là aussi, on va essayer de vraiment avoir suffisamment de temps pour pouvoir plonger dans cet univers de cette langue-là, pour pouvoir vraiment être au niveau de cette langue-là, qui est absolument magnifique.
Les Tchèques sont la nation la plus athée d'Europe. Voici une phrase que l'on entend souvent lorsqu'on évoque le sentiment religieux des Tchèques après 1989. Si le pays possède de nombreuses et somptueuses églises, force est de constater que depuis 1989, les fidèles y sont rares, et ce malgré la reconnaissance, à la suite de la chute de la dictature, du rôle de l'église catholique comme force d'opposition au communisme. Conséquence de l'application d'une forme dure du communisme et de la normalisation pendant plusieurs décennies. Roumanie, penseront certains. Rien n'est moins sûr s'il faut reconnaître que la sécularisation et la distanciation vis-à-vis du clergé catholique est un phénomène observable dans l'ensemble des sociétés européennes. La prise de distance de la société tchèque vis-à-vis de l'Église romaine s'inscrit sans doute dans un mouvement plus ancien. Quelques éléments de compréhension dans notre rubrique historique avec Jakub Štofánik, un jeune historien slovaque installé à Prague et dont les travaux portent sur le discours social de l'Église catholique tchécoslovaque dans l'entre-deux-guerres, une période durant laquelle le clergé cherche sa place dans le nouvel État.
Chapitre de l'histoire. Jakub Štofánik, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un jeune historien au CEFRES à Prague. Vous êtes slovaque et vous travaillez sur la réception de la pensée sociale dans l'Église catholique durant la Première République tchécoslovaque. C'est un travail que vous menez dans le cadre d'une thèse de doctorat. Une première question, qu'est-ce que vous entendez par pensée sociale de l'Église catholique dans la Première République tchécoslovaque ?
C'est soit la réception de l'encyclique sociale, telle que Rerum Novarum ou puis Quadragésimo Anno, entre deux guerres.
Donc des textes qui ont été édités par le pape à la fin du XIXe siècle, c'est
oui,
ça?
Oui, par le pape et par le prêtre autour de Saint-Siège.
Le Rerum Novarum, donc c'est 1891, qu'est-ce que c'est comme texte? Qu'est-ce qu'il contient comme idée?
Il contient que l'Église doit réagir sur des changements dans la société. C'est un encyclique papal qui se concentre sur la question de la position des ouvriers dans l'Église catholique.
Donc ça veut dire que c'est un texte édité par le pape en opposition, en quelque sorte, en alternative au mouvement ouvrier qui est en train de se construire et de s'internationaliser en Europe, c'est ça?
Je ne pense pas que c'est alternative au mouvement ouvrier. Je pense que c'est plutôt une alternative au développement ou au regard sur la société par le libéraux et par le socialiste. C'est l'alternative entre ces deux.
Rappelons que Rerum Novarum, en 1891, est la première encyclique sociale au sens moderne. Le pape Léon XIII y affronte les thèmes du travail et du salaire, à une époque où les ouvriers des pays européens en plein essor industriel deviennent de plus en plus nombreux et dont les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Les ouvriers sont alors sensibles aux nouvelles idéologies sociales, souvent anticléricales, qui constituent autant de concurrents au discours de l'Église catholique. L'encyclique Rerum Novarum aborde donc les questions de la propriété privée et du rôle de l'État, du droit d'association des travailleurs et des droits de la famille. L'encyclique a eu le mérite, entre autres, d'établir la doctrine sociale de l'Église dans ses principes fondamentaux. L'encyclique Quadragésimo Anno de Pie XI en 1931 fut écrite, comme le dit son titre, à l'occasion du 40e anniversaire de Rerum Novarum. Elle apporte de nombreuses nouveautés au cadre déjà tracé par Léon XIII. Elle souligne comment la révolution industrielle a maintenant une dimension plénière puisqu'elle investit l'humanité entière. Alors vous travaillez sur le mouvement social de l'Église catholique dans la Première République tchécoslovaque, je le répète. Quel est le contexte de l'Église catholique à ce moment-là, sachant que l'Église catholique était l'un des piliers du pouvoir sous la monarchie des Habsbourg? Comment est-ce que cela se passe après 1918?
La situation ou la position de l'Église catholique en Tchécoslovaquie entre deux guerres ou au début de la Première République a fortement changé par rapport à la situation dans l'Empire austro-hongrois. C'est la position qui est beaucoup plus faible. L'Église ne joue pas le rôle de pilier, comme vous avez dit. Et c'est plutôt, au début, c'est vraiment la situation de conflit entre représentation de l'État et représentant de l'Église.
Vous dites donc qu'elle est plus faible, ça veut dire qu'elle est plus faible vis-à-vis de son rapport avec le nouvel État ou plus faible vis-à-vis du nombre de fidèles, de l'attraction de l'Église à ce moment-là?
Tous les deux. C'est pas seulement vis-à-vis de l'État, mais il y a des problèmes internes dans l'Église. Et puis, bien sûr, il y a des problèmes de...
Donc des problèmes internes au sein de l'Église tchécoslovaque, quels sont-ils ces problèmes?
C'est entre guillemets hérésie et création de nouvelles églises tchécoslovaques au début des années 1920 et la réaction de hiérarchie sur cette nouveau, on peut dire, concurrent sur la vie religieuse en Tchécoslovaquie.
Donc la pensée sociale de l'Église catholique durant l'entre-deux-guerres s'applique dans un pays qui est industriellement avancé par rapport au reste de l'Europe. Comment est-ce que s'intègre cette pensée sociale dans le pays?
Au point de vue, de, par exemple, de traduction d'un grand encyclique, c'est très vite, et l'intégration de pensée sociale est visible. Mais puis, au point de vue de création de mouvements ouvriers catholiques, on ne peut pas observer tel... on ne peut pas faire une comparaison avec d'autres milieux européens. Donc l'acceptation de pensée sociale dans l'Église catholique en Tchécoslovaquie,
C'est comme dans le catholicisme en Europe en général, ça s'adresse vers le ouvrier, vers le milieu urbain en général. La pensée sociale de l'Église ou le catholicisme social s'adresse vers le milieu urbain en général, vers des masses ouvrières qui sont confrontées avec sécularisation qui est assez forte.
La première République tchécoslovaque est composée de différentes nationalités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la différence entre le catholicisme dans les pays tchèques et dans les pays slovaques?
Je pense que la position de catholicisme en Slovaquie était plus forte que dans le pays tchèque. Même au début de la République tchécoslovaque en 1918, mais même pendant toute la période de l'entre-deux-guerres. Et le catholicisme slovaque a joué aussi un rôle important dans la vie politique, dans la vie culturelle.
Qui n'est pas celui qu'on trouve dans les pays tchèques après 1918?
Oui, la religiosité de la Slovaquie était plus forte, mais même la religiosité de pays tchèques dans cette époque était pas négligeable.
Elle est en déclin quand même dans les pays tchèques.
Oui, bien sûr, mais elle a toujours bonne position dans la vie politique, elle a toujours bonne position dans la vie intellectuelle. Il y a plusieurs archevêchés, l'archevêque de Prague a des positions qui n'est pas faible.
L'essor du nationalisme tchèque au XIXe siècle s'est accompagné d'un fort recul de la religiosité. Dans les pays tchèques, le sociologue des religions Zdeněk Nešpor précise ainsi que le nationalisme tchèque se serait construit non en référence au clergé, mais sur la base de facteurs historiques. Le nationalisme tchèque aurait ainsi cherché à se démarquer du support religieux comme facteur d'identification des populations tchèques et aurait trouvé les moyens de légitimer son existence en magnifiant non pas le catholicisme seulement, mais l'État tchèque médiéval, les institutions étatiques et sociales. Le clergé, la religion, n'est pas exclue de la série de références qui fondent la nation tchèque. Dans les discours des historiens tchèques du XIXe siècle, le clergé catholique n'est pas la référence qui appuie pourtant l'essor de la nation. C'est en effet dans le mouvement hussite que les grands noms de l'histoire nationale trouvent alors les sources de la nation moderne. Selon Zdeněk Nešpor, grâce à la recherche historique menée par les éveilleurs de la nation durant le XIXe siècle, les Tchèques auraient redécouvert la grandeur de leur histoire. Dans « Qu'est-ce que les Tchèques ?», Jan Patočka, le philosophe historien, rappelle ainsi.
L'éminent historien František Palacký applique cette idée, la grandeur de l'histoire nationale tchèque, au hussitisme qui signifie à ses yeux à la fois une ouverture sur le monde moderne de l'humanité émancipée, un retour aux profondeurs du génie national avec son démocratisme élémentaire et fondamental.
Nous ne souhaitons pas discuter ici de la pertinence des théories sur le caractère national tchèque. Nous retiendrons cependant que depuis le XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la société tchèque s'est profondément distanciée de ses élites cléricales. Sauf dans les régions frontalières de Bohême où la population germanophone est restée jusqu'à son transfert en Allemagne, profondément attachée à la pratique religieuse et dans une grande majorité catholique. Le déplacement forcé des Allemands tchécoslovaques et la prise du pouvoir des communistes en 1948 accentuent davantage la sécularisation de la société.
C'est par ce magazine historique qui vous a été proposé par Paul Bauer que s'achève le programme préparé par la rédaction française de Radio Prague. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention. À demain.